Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêts, là? Collectivement, on se prend par la main puis on décide de relever un beau défi. Je vous mets au défi, donc, de relever ce défi de produire moins de déchets. Pourquoi ça me prend là aujourd'hui? Ben parce que c'est en prévision de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui commence dans deux jours, donc du 20 au 28 octobre. Vous voyez, c'est 8 jours. On se donne 8 jours pour faire notre effort et essayer d'être plus conscient de la quantité astronomique de déchets qu'on produit. Et oui, nous en produisons beaucoup, à tel point que même que là, on ne sait plus comment nous le dire. Alors, c'est vrai qu'au Québec, on s'est beaucoup pété les bretelles. Parce que, hey, nous, on recycle. Hein? Nous, on recycle beaucoup au Québec. C'est vrai, puis bravo. Bravo, on l'a comme incorporé le message du sac bleu. On l'a incorporé, on recycle. Après, bon, là, on commence à s'inquiéter. Est-ce que ce qu'on recycle va véritablement être recyclé? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous êtes très nombreux chaque semaine, puisque je vous en parle quasiment au moins une fois par semaine d'environnement. Vous me dites souvent, comment faire? Moi, je veux bien, mais je sais pas comment m'y prendre. Alors, ça va être très concret pendant la prochaine demi-heure avec nos invités. Karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Merci, Karel, d'être là. Karel, d'ailleurs, qui m'a proposé d'être une des inspiratrices de cette semaine de réduction des déchets. Fait que ça me fait grand plaisir. Je suis vraiment contente. Vraiment, si on peut aider, on va aider. Florence Léa Siri, qui vient de publier un livre, La consommation dont vous êtes le zéro. Z apostrophe héros, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on, ça nous fait du bien, n'est-ce pas, Florence? Quand on a l'impression de faire un geste pour l'environnement, en tout cas, moi, ça me fait du bien.
Absolument. Puis on est rendu là aussi. Voilà. Donc, on devient les héros de notre propre consommation.
Voilà. Bon. Quel genre de quantité produit-on, Karel, pour essayer là, d'influencer nos auditeurs puis les encourager à embarquer dans cette semaine de réduction des déchets?
Ben, je vais être un petit peu plate. Je vais dire qu'on en produit trop, premièrement. Ouais, voilà. Donc, le Québec a déjà été le troisième plus grand producteur de déchets au monde, donc devant les Américains. Donc, ça, c'est l'OCDE, l'Organisation du commerce et développement économique.
Sur une base individuelle ou vraiment c'est incluant les industries?
Incluant les industries, donc c'est tout confondu. Là. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça inclut les industries aussi, les déchets routiers, ce qu'on appelle les déchets issus de la construction, rénovation, démolition. C'était au-delà de 1 000 tonnes par année, par habitant.
Combien vous dites?
Je peux dire de bêtises, mais c'est 1 tonne par année par habitant.
Ça fait beaucoup de...
Ça fait beaucoup. On était rendu au-dessus de 13 millions, je crois, en 2008.
Ouais.
Donc, c'était les derniers chiffres qu'on a là, qui étaient aussi catastrophiques. Depuis, la comptabilité a un petit peu changé et on fait beaucoup de diversions. Donc, on en voit moins l'élimination. Et lorsqu'on parle de réduction, nous, on mise vraiment sur éviter de produire un déchet plutôt que de le recycler ou de le réutiliser. Parce que l'idée de la réduction, c'est vraiment réduire à la source, ne pas produire un déchet.
Alors que là, vous dites, c'est ça, on évite d'en faire. C'est vraiment l'opération zéro déchet. Florence Léa Siri, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous encourager à le faire, surtout et surtout nous dire comment nous y prendre? Parce que zéro déchet... Ça apparaît comme une montagne insurmontable. Ça veut dire on produit plus de déchets. Là.
C'est très décourageant, en fait, quand on...
Vu de même.
Vu de même. Mais premièrement, je vais vous rassurer, personne ne part de zéro. Si vous avez déjà aujourd'hui éliminé un déchet dans votre quotidien, c'est déjà un premier pas. Donc, on va se valoriser plutôt que de se décourager. Moi, je suis une adepte de la deuxième vie, de la revalorisation. Je suis très, très d'accord avec Karel, comme quoi il faut qu'on refuse, évidemment, les déchets. Mais on peut pas passer de surconsommateur à tout refuser. Ça va être très, très difficile psychologiquement.
Oui.
Donc, c'est pour ça que dans mon livre « La consommation dont vous êtes le zéro », je présente étape par étape des façons pour s'initier au mode de vie. Et non seulement ça aussi, c'est pour apprendre à revaloriser le déchet parce que des fois, on se rend même pas compte qu'on produit des déchets. Donc, si on est capable de dire « Ah ben en fait, ça, c'est un déchet, mais il peut devenir un objet utile qui va m'aider à remplacer, à refuser un futur déchet », moi, pour moi, c'est la première étape pour être capable de se conscientiser. Puis naturellement, dans 1 mois, 5 mois, 6 mois, 5 ans, on ne sera plus les mêmes consommateurs.
Mm-hmm. Donnez-moi des exemples concrets là, dans votre vie à vous, parce que c'est amusant. Votre livre est très intéressant. Vous racontez votre histoire. Vous êtes fille d'une mère militante pro-environnement. Et là, vous dites, bon, j'aime bien quand vous dites, il s'en est pelleté des hivers avant que mon intérêt pour la planète devienne naturel. C'est comme maman était un petit peu fatigante avec ça. Là.
Oui, oui, oui.
Mais finalement, elle vous elle a planté la petite graine dans votre tête et vous êtes devenue, vous aussi, finalement, une militante pro-environnement.
Tout à fait, mais je l'ai abordée de façon différente. C'est que moi, comme j'étais cantinière sur les plateaux de tournage, oui, j'étais confrontée à une industrie qui produit énormément de déchets, qui est aussi en mobilité, donc qui laisse beaucoup de déchets partout où il passe. Donc,
le craft, ça salit.
Et oui, oui, vraiment. Puis, plutôt que de me révolter, de devenir un être humain fâché, bien, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement pour améliorer mes conditions de travail, mes conditions de vie? Puis, c'est comme ça que, sans le vouloir, je me suis mis à inspirer mes collègues de travail. Donc, c'est en posant des petits gestes qui paraissaient banals quand on les prenait de façon isolée, mais que globalement, bien, peut-être que mon autre collègue a fait un autre geste, puis un autre collègue ensuite s'est inspiré. Donc, on est devenus les influenceurs les uns des autres.
Donc, gestes que vous avez posés sur les plateaux, comment vous avez commencé à, justement, à influencer les autres?
Bien, j'ai commencé des fois aussi à revaloriser les emballages. Ça, j'en parlais là, d'entrée de jeu. Par exemple, plutôt que de prendre un sac à usage unique, le petit sac d'épicerie là, pour mettre les fruits et les légumes, ben je réutilisais les filets que j'avais acheté, donc filet d'oignon, filet de citron. Moi, mes vermicelles que j'achète, malheureusement, sont sur-emballées, mais c'est ce que je préfère. Ouais. Plutôt que de m'en priver, je réutilise l'emballage et ça fait un filet. Mais juste les gens qui me voyaient mettre ça sur la table, plutôt que de mettre des sacs pour mettre des fruits et les légumes, d'utiliser les filets ou de me voir rentrer des courses avec tout ça, ils disaient « Ah! » Ah, ben, j'avais pas pensé. Je pensais qu'il fallait acheter des sacs de tissu, par exemple. Donc, déjà, ça a piqué leur curiosité. Puis après, ils m'ont partagé leurs trucs. Donc, à force de partager à gauche, à droite les trucs, ben, on devient beaucoup plus alerte puis on pose des gestes concrètement. Donc, à l'époque, moi, ma mère, elle pouvait réutiliser les sacs à lait. Moi, je trouvais ça tellement, elle a jamais
les sacs
même
à lait,
oui, les sacs à lait, ben,
ceux qui se vendent là, les droits qu'on coule le petit coin là.
Ben oui, puis on mettait les sandwichs dedans, ou pire, ma mère n'a jamais acheté de papier Saran Wrap, puis j'étais tellement gênée, mais maintenant je comprends que elle se disait ben pourquoi en acheter quand si j'achète un thème emballé, ben il y en a qui vient, donc je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit des
mais
signes
ça,
de dégradation.
Ben ça, je suis contente que vous ayez ça parce que bon là ça sous-entend ton sac à lait, il y a eu du lait dedans. Là, faut laver le sac à lait. Il y a quand même aussi le risque de contamination. Alors, comment, à chaque fois que je rince un, par exemple, un emballage en plastique que je m'apprête à recycler, je me dis, je viens-tu de gaspiller plus d'eau que le bénéfice du recyclage de mon emballage en plastique? Comprenez-vous? Mm-hmm. Et beaucoup de gens se posent la question, parce que l'eau n'est pas une, ici, on a l'impression, tu sais, on la paye pas, puis bon. Mais c'est pas une ressource non plus c'est une ressource périssable. Donc, est-ce qu'il y a... Des fois, on a l'impression qu'on fait du bien. Or, non, notre geste n'est pas aussi écologique qu'on le penserait.
Ben, au niveau de laver les contenants, par exemple, ça prend beaucoup plus d'eau, extraire un contenant, le transformer, le fabriquer à partir de la ressource vierge.
Que de le rincer pour
absolument.
Le mettre au recyclage.
Oui. Donc, et on rince le contenant lorsqu'on fait la vaisselle, on laisse tremper le contenant une nuit, puis il est propre. Laver les contenants, en fait, c'est simplement pour pas que ça attire des petites nuisances,
si on veut. Ça pue,
naissant de tri, tout ça.
Mais dans un cas où on recycle, par exemple, le sac à lait, il est obligé de le rincer. Mets-tu du savon dedans? Ou...
Ben oui, tout à fait. J'applique des règles d'hygiène, mais c'est pas pire que de rincer, en fait, un sac Ziploc ou même un contenant en plastique. Donc,
toi, tu rinces tes Ziplocs, hein? Je suis pas toute seule à le faire.
Ben, en fait, j'en achète plus.
T'en achètes plus? Ben non, tu prends des sacs à lait.
Ben, non seulement des sacs à lait, ou sinon, ben, j'ai acheté des sacs à collation. Je revalorise des emballages aussi qui peuvent être complètement banals, mais qui finalement, je me dis, ah, ben, ça ressemble à quoi, ça? Ah, ben, ça ressemble à autre chose que je pourrais acheter. Je vais éviter d'acheter. Je vais l'utiliser. Évidemment, je porte un signe particulier au signe de dégradation. Une attention particulière, pardon, au signe de dégradation parce que le but non plus, c'est pas justement qu'il y ait des problèmes d'hygiène, salubrité. Mais si un aliment était fait pour être conservé dans du frais, ben je peux m'en servir pour être dans du frais.
Tellement, ouais.
Si moi j'achète plus de sacs Ziploc justement pour la congélation parce que les peu de fois que j'achète des fruits congelés l'hiver par exemple, ben c'est fait pour être solide dans un lieu réfrigéré congelé, donc je les nettoie puis je le réutilise. Donc, vous voyez, ça m'a évité de faire un achat, de produire des matières vierges.
Et tu produis pas forcément zéro déchet parce que le défi zéro déchet, il est quand même, on a mis la barre un peu haute. Tu produis quoi, là, ton restant de ce que tu peux pas... Il faut que tu vives avec un minimum de déchets dans la vie. Toi, c'est un petit sac aux deux semaines, c'est ça?
Ben oui, mais c'est drôle, le chercheur me posait la question, puis c'est tellement rendu le dernier de mes soucis, ma poubelle, que je me pose jamais la question, est-ce que j'ai fait trop de poubelles ou pas? Je sais que lorsque je dépose quelque chose dans la poubelle, c'est le dernier recours.
Ouais.
Puis est-ce que je sors aux deux semaines, aux trois semaines, des fois aux semaines? Je m'en rends même pas compte, en fait.
Ah, ouais.
Je le sors parce que, des fois, ben évidemment, tu sais, s'il y a des aliments aliments qui n'allaient pas au compost, j'ai été obligée de les mettre. Ben, j'ai pas que ça pue, mais mon sac est jamais plein. Donc, c'est un mode de vie. Je me suis prise au jeu, en fait. Mm-hmm. Puis c'est génial de consommer comme ça parce que c'est plus le centre de notre priorité,
c'est
en
ça.
Fait.
En fait, Karel, ce qu'il faut avec cette semaine québécoise de réduction des déchets, ce que vous essayez de faire, c'est d'amener les gens à comprendre tout le cycle de la consommation aussi.
Tout à fait. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est l'alterconsommation. Donc, voilà. Il existe d'autres façons de consommer. Consommer du réutilisé, par exemple. Mm-hmm. Donc, consommer des produits durables. Ce qu'on appelle aussi de l'économie de partage. Donc, on peut échanger des biens plutôt qu'en acheter des nouveaux. Ce que Florence dit, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire on réduit déjà sans le savoir. Lorsqu'on apporte un sac réutilisable au magasin, en fait, on évite de consommer un sac jetable. Et donc, l'idée, ce n'est pas que tout le monde se mette demain matin au zéro déchet. Mais moi, je suis incapable de le faire, très honnêtement.
Vous, qu'est-ce que vous avez changé, vous? Karel Ménard, dans votre vie, je veux savoir.
Moi, honnêtement, et ça fonctionne. C'est-à-dire, lorsque je fais des commissions, des courses, je mange avant. C'est idiot, ça paraît simple.
Ah, c'est bon, ça!
Mais au moins, je n'achète pas des choses dont je n'ai pas besoin. Lorsqu'on c'est a faim, puis on est dans un magasin d'alimentation, là, on achète beaucoup
ça
de choses.
Ça y va au toast!
Et aussi, j'évite c'est de vrai. Rentrer dans les allées et je me fais une liste d'épicerie.
C'est ça.
Donc, quand
la
je...
liste, oui. Ouais.
Puis une chose que les commerçants n'aiment pas, c'est que je fais mon épicerie avec mon sac réutilisable. Donc, je ne prends pas le petit panier. Parce que je me dis, si bon. Le sac est trop plein, je ne suis pas capable de le porter. That's it. J'ai fini, je sors, je paye.
Mais donc, ça
ou
sous-entend.
Je paye et je sors plutôt dans l'ordre.
Ça sous-entend que c'est changement de mentalité, changement dans nos habitudes. Parce que, à l'époque, tu sais, on voyait nos parents faire le. Connaissez-vous ça? Ben oui, Karel, sans doute.
Oui.
Nos parents faisaient le jeudi, ils allaient faire le Steinberg, là, tu sais.
Oui.
Mais c'était ça. Aujourd'hui, moi, je me rends compte, mes habitudes, j'y vais presque aux deux jours.
Mais mes parents, lorsqu'ils faisaient des commissions comme ça, le jour de la paye, le jeudi soir, ma mère, ben, c'était une autre époque, là, mais elle cuisinait, donc on avait des repas pour la semaine. Aujourd'hui, les portions sont individualisées, suremballées. Donc, c'est un des problèmes et ça vient de loin.
Ouais.
C'est pour ça qu'on a beaucoup d'emballages, parce que les produits, les fruits mûrissent. Durant ou mûrir, c'est un grand mot, là, mais mature, si on veut, dans le transport, donc ils sont suremballés. Mais avant, ma mère, elle faisait un rôti qui durait toute la semaine, donc elle le déclinait en plusieurs repas, et j'ai pas de mauvais souvenirs du tout d'avoir mal mangé. Donc, c'est pas si dur que ça de faire attention. Puis l'idée, c'est pas une religion, là. Il faut pas être dogmatique pour dire on va te chicaner si tu pollues ou si tu consommes trop. L'idée, c'est peut-être des fois de modifier deux, trois petites habitudes et on y prend goût parce que c'est même pas un effort. J'aime pas le mot effort parce que ça devrait être.
Une conscience, oui, c'est vrai.
Ça se faisait avant, puis on n'est pas mort personne, puis on avait peut-être une meilleure qualité de vie. Là, on court toujours, on surconsomme. Puis moi, ce que j'aimerais voir, c'est des poubelles vides, bien sûr, mais aussi des bacs de recyclage vides.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là, la tendance en alimentation, c'est de se commander une boîte. Puis pas une boîte de pizza, là, une boîte de bouffe santé. Là. Fait que là, t'en as plein d'entreprises qui vont là-dedans. Ça apparemment là, qui lève beaucoup de financement pour. Moi, je regarde ça, mais je me dis, bien, voyons. Moi, j'en ai jamais commandé. J'ai pas cette attirance-là. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont pas le temps de se faire à manger, qui arrivent le soir, qui disent, bon, ben au moins, je me suis fait livrer une boîte. Puis dedans, il y a une recette, puis je suis la recette. Mais ça fait beaucoup de déchets, ces boîtes-là sont grosses. C'est des grosses boîtes, puis ils sont pas remplies. Il n'y a pas quelque chose là d'un peu contradictoire d'un point de vue écologique?
Il n'y a rien d'écologique là-dedans. C'est-à-dire, effectivement, c'est du suremballage, point. C'est-à-dire, c'est anormal de se commander deux repas et où chaque ingrédient est emballé dans du plastique jetable. Donc, on devrait bannir, premièrement, le plastique jetable. Mais non, c'est peut-être ça peut être pratique, mais c'est un peu là, c'est une dérive, je trouve, de la surconsommation. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se commander ou de faire venir une boîte pour ensuite dire qu'on a fait un repas où tout est suremballé. C'est-à-dire, emballer des 2-3 grammes de sel dans du plastique, c'est une hérésie, là, tant qu'à moi. Là.
Tellement.
Ouais. Bien, il y a deux choses par rapport à ça. Premièrement, il existe des pays comme en Scandinavie, à Copenhague, ils ont ce système-là qui est aussi très populaire, mais par exemple, tout est consigné.
De boîte repas, là?
De boîte repas, mais par exemple, les commerçants qui mettent sur le marché ces produits-là récupèrent et ils font la consigne avec les contenants. Donc, c'est une partie de la solution s'ils veulent développer ce produit-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, je suis...
Mais ça marche comment? Mettons là, que tu commandes une boîte, ta boîte, faut que tu retournes ou...
On fait juste l'échange. Donc, un peu comme quand vous avez vos bouteilles de bière, en fait. Donc, vous avez bu vos bouteilles de bière ou vos bouteilles de liqueur, ben vous retournez au comptoir. Donc, quand vous récoltez votre nouvelle boîte, vous redonnez l'ancienne, c'est tout.
Ouais.
Donc, c'est pas plus compliqué, là, en fait. Puis, plutôt que d'éparpiller les déchets, ben c'est tout remis dans la même boîte. C'est dans
un endroit. C'est des boîtes réutilisables, c'est ça?
Oui, c'est ça. Tout est pensé pour être...
Mais dans ce cas-ci, là, je pense à toutes ces entreprises qui font ça, là. Ils n'ont pas forcément un comptoir où tu peux aller retourner ta boîte, là. C'est ça le problème.
Mais moi, je pense qu'ils
même
gagneraient.
La SAQ ne reprend pas les bouteilles. Pourtant, c'est pas un magasin qui manque. Là.
Non,
je sais pas s'ils vont reprendre les botches à moitié fumées.
Ah ben, ça se recycle apparemment.
On va aller à la pause là-dessus. J'ai hâte de vous entendre. C'est la semaine de québécoise de réduction des déchets. Ça commence le 20, pendant 8 jours jusqu'au 28 octobre. On va vous mettre au défi. C'est la 18e édition, donc c'est pas nouveau. Mais je trouve que cette année, il me semble qu'on est comme plus enclin. On a pas.
On est dû.
On est dû là, effectivement. Hey, n'empêche, on va faire 20 ans dans 2 ans. Avez-vous l'impression de vous répéter, Karen?
Ben absolument pas, au contraire, parce que ça prend souvent du temps. Les bonnes initiatives, des fois, prennent du temps avant que ça sorte publiquement. Mmh. Mais là,
vous êtes un optimiste.
Ah, il le faut en environnement.
Alors, nous sommes quelques personnes à être inspiratrices de ça. On m'a suggéré le mot tout à l'heure. J'aime beaucoup ça, être inspiratrice. Il y a la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Il y a Sonia Gagné également, présidente de Recycle Québec, ouais. qui est là et qui. On va vous donner des petits trucs. Vous me suivrez sur mon Facebook, Isabelle Maréchal officiel. Vous me suivrez également sur la page 98.5. On va vous donner des trucs. Moi, le mien, c'est j'essaie de cuisiner plus et je me suis mis au compost. Et sincèrement, voyez-vous la joie dans mon visage de composteuse? Ah, moi, j'ai du fun, sérieusement. Puis j'expliquais ça même à mes recherchistes en même temps qui me disaient, ça doit puer chez vous, hein, Isabelle? Non, sincèrement, moi, vous l'expliquez après la pause. C'est facile. Puis j'habiterais dans un condo, pas de garage, puis pas de terrasse. Ça serait facile pareil comme ça. Je veux juste une posture mentale. Il faut vouloir. Hein, t'es-tu d'accord, Florent?
Tout à fait.
Voilà. 514-790-9850. Sans frais de partout, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Êtes-vous prêt à relever le défi zéro déchet? Dites-moi si vous avez des trucs. Bon, on s'est lancé le défi. On réduit nos déchets du 20 au 28 octobre, puis vous allez voir comment c'est y prendre goût. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Vous faites votre effort?
Je crois que oui. J'achète beaucoup de fruits et légumes parce que je fais beaucoup de canard. Je canne ma nourriture.
Ah, ça, c'est bien.
J'empote, là.
Ouais.
Et puis, avec mes résidus de fruits et légumes, rendus à l'automne, comme à cette période-ci de l'année, je prends tous mes résidus que je peux, puis je les remets dans la terre aussi que j'avais mes plants de tomates et mes légumes.
Parfait, ça.
Et je le mélange à ma terre, je mets un peu de compost, puis j'en rajoute jusqu'à ce que je fasse trop froid. Et puis, le reste, je l'envoie chez mon voisin qui, lui, fait du compost.
Mais il est au courant que vous lui envoyez son...
Oui. D'ailleurs, ça fait son affaire.
Ben, j'imagine, certainement.
Fait que j'engraisse mon jardin comme ça, rendu au printemps. Je remets un petit peu de compost, puis je peux planter, puis mes plants, ils viennent très beaux, là.
Et est-ce que vous compostez, donc, est-ce que vous le faites aussi avec vos restants de table, pas juste quand vous faites du canage là, ou de l'empotage, là, vous le faites également tous les jours sur une base régulière?
Je vous dirais que mon bac de récupération est déjà plein après à peine une semaine. Fait qu'au bout de deux semaines, j'en mets dans la poubelle du voisin parce que je fournis pas.
Super. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Anthony, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Oui, en fait, nous, pour un petit truc qu'on fait à la maison pour le compost, c'est on le met dans le congélateur. Comme ça sent juste.
Oui, il y en a qui disent ça. Mais vous, il sent votre compost?
Non, pas vraiment. Là.
Non, en fait, ben c'est ça. Moi, les gens me disent ça. Tu sais, tu peux le mettre au congélateur. Je dis pourquoi? J'ai pas besoin de le mettre au congélateur. Ça sent pas.
Mais non, c'est juste. Il y en a qui ont des fruits, ils sont trop mûrs, là, mais à un moment donné, c'est juste ça.
Mais tu sais, en même temps, on les mettait dans notre sac noir, notre sac brun, dans la poubelle de la maison. Ben, ça revenait au même. Là.
Ben oui, mais en même temps, tu sais, là, nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est qu'on n'a pas de sac de plastique pour le fruit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le sac de Publisac qu'on soit à chaque mois ou à chaque semaine, on l'utilise pour mettre dans le fond du bac. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre des sacs de plastique pour le compost.
À moins d'acheter. Moi, ce que j'achète, mais là, pendant la pause, justement, Florence, Léa, Siri me donnait d'autres trucs. Elle va vous donner tout de suite. C'est que moi, j'achetais les petits sacs très fins qui ne sont pas du plastique, qui sont une matière compostable, qui sont faits, c'est marqué sac de compost. Fait que je me suis dit, ça doit être bon. Mais vous suggérez d'autres choses, Florence, Léa?
Oui, en fait, de prendre des journaux. Donc, des papiers journaux qu'on peut mettre entre les étages de compost ou sinon, simplement, un sac brun. Donc, si vous êtes allé à l'épicerie, vous avez oublié votre sac, bien, demandez le sac de papier brun. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre compost.
C'est vrai, il nous pose la question. Voulez-vous un sac brun ou voulez-vous un sac de plastique? Donc, on prend le sac brun puis on le met dans le fond de notre compost. Merci beaucoup, Anthony. Merci bien. Dominique, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, c'est ça. Ben moi, mon commentaire, c'est que là, on parle de réduction, mais quand on regarde avant qu'est-ce qu'ils disaient, on a juste à penser aux contenants de lait. Les contenants de lait étaient réutilisables. C'était pas recyclable, c'était pas jetable à usage unique. C'était dans la mentalité. Là, avec justement tout ce qui est de l'industrialisation, on est tombé dans le prêt à acheter. Moi, personnellement, qu'est-ce que je pense? C'est que ça devrait prendre du courage politique, puis tous les objets qui sont à usage unique à jeter, ben que ça soit interdit, puis qu'on retourne à qu'est-ce qui se faisait avant, parce que c'est fou. On pense que dans le temps, quand le gros bon sens y vient, mais on l'a comme perdu dans certains aspects, puis je pense qu'il faudrait que ça revienne comme ça. On a juste à aller visiter un site d'enfouissement pour me donner une idée à quel point que ça a comme pas d'allure qu'on... On est trop dans le prêt à jeter.
Ah, tellement. Vous avez tellement raison, Dominique. Karel Ménard, peut-être là-dessus, parce que ça fait partie aussi de ce que vous essayez de changer de mentalité.
Plus en accord avec ce que vient de dire Dominique. Effectivement, c'est un petit peu, j'en ai parlé tantôt, lorsqu'on individualise les portions, c'est toujours du jetable. L'histoire de la boîte là, qu'on commande, c'est un très bel exemple aussi. C'est-à-dire.
À ne pas faire, vous voulez dire.
Oui, puis les contenants devraient être consignés. Les bouteilles d'eau, en fait, les bouteilles d'eau ne devraient pas exister jusqu'à un certain point. Mais si on ne peut pas s'en défaire complètement, au moins les consigner pour s'assurer qu'elles soient récupérées et recyclées, parce que souvent, on dit qu'on a un bac de recyclage à la maison, mais en fait, c'est un bac de récupération.
Ouais.
Est-il vraiment recyclé en bout de ligne? Qu'est-ce qu'on fait avec? Généralement, oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'information. Donc, on sait que jusqu'à tout récemment, plus de 60 % du contenu du bac allait en Asie. Là, la Chine a fermé ses portes aux matières recyclables de la planète. Donc, ça reste ici maintenant. On essaie de trouver des moyens pour recycler ici, parce qu'on a vraiment développé la collecte, la récupération au Québec au cours des 20 dernières années, mais très peu le recyclage. Et aujourd'hui, on sent les contre-coups de ça. Donc, peut-être pour certains contenants, pour certains produits, il faudrait effectivement les interdire, les produits jetables, ou comme les contenants éventuellement, ou certaines bouteilles, notamment les bouteilles de la SAQ, on devrait les consigner pour qu'elles soient récupérées et ensuite recyclées.
Quand même, ça, il me semble que la SAQ devrait faire un effort là-dessus. Là. Bon, il y a toujours quelqu'un à la SAQ pour nous expliquer pourquoi, finalement, ça serait pas... Qu'est-ce qu'ils disent comme argument? D'ailleurs, pour justifier qu'il faut
qu'ils ne peuvent pas les retourner en France.
C'est
mais
ça,
en fait, parce qu'ils confondent la bière. La bière, et au Québec, les bouteilles sont réutilisables parce que l'embouteillage se fait ici. Mais les bouteilles de vin, l'idée, c'est de les récupérer pour les recycler. Mais lorsque le bac, la bouteille est mise dans le bac de récupération, on ne peut plus la transformer en autre produit de verre. Donc, la plupart des bouteilles, je ne peux pas dire toutes, mais pratiquement toutes les bouteilles que vous mettez dans le bac de récupération finissent leur vie dans un dépotoir sous une forme ou sous une autre, ou sous forme d'un abrasif, ou des fois d'un ajout cimentaire. Mais ultimement, le verre ne peut plus être recyclé par la suite. Donc, on a une usine ici à Montréal, qui est un des plus gros recycleurs de verre, qui doit importer sa matière première de l'étranger. Ce qui est un non-sens.
Donc, la SAQ pourrait simplement collecter les bouteilles qu'on a bues.
Ou d'autres lieux de dépôt, ça veut dire.
Ouais,
ça, c'est un autre argument de la SAQ. On ne peut pas récupérer nos bouteilles, mais en fait, c'est pour ça qu'elle préfère avoir un système pêle-mêle qui est complètement inefficace pour ce genre de produit-là. Mais c'est peut-être pas la SAQ qui devrait récupérer les bouteilles. Peut-être qu'on devrait revoir nos lieux de dépôt. Peut-être que les petits dépanneurs ne seraient pas tenus de récupérer les bouteilles de vin parce qu'effectivement, ils sont pas équipés pour ça. Peut-être qu'on devrait repenser notre système de consigne. Ce dont on parle beaucoup, mais on ne le fait pas, effectivement, peut-être côté courage politique, mais aussi il y a beaucoup de pression pour pas que ça voit le jour. On aime bien le jetable au Québec, c'est facile.
Oui, c'est sûr. Puis ça me permet de rappeler que c'est vrai que la façon dont on dispose des ordures a un impact et que nos poubelles, faut se le dire, empoisonnent l'environnement à petit feu. Puis ça fait augmenter les dépenses publiques, ça contribue au réchauffement climatique. Et nous, on n'est pas un très bon élève, le Canada. Je vous rappelle un peu ce que disait Karel Ménard tout à l'heure en début d'émission. Selon un rapport de l'OCDE, on est le Canada champion de la production de déchets par habitant au sein des pays de l'OCDE. On fait à peu près une tonne par habitant, ça c'était il y a 4 ans. Je pense pas qu'on a réduit tant que ça. Une tonne par personne, c'est quand même beaucoup. On a 0,5% de la population mondiale et on produit plus de 2% du volume de déchets générés dans le monde. Je pense que des fois, on se regarde puis on dit... On aime bien
se dire à nous-mêmes qu'on est bon en recyclage. En fait, on récupère beaucoup. Et moi, il y a une grande distinction entre récupérer...
Mais on consomme beaucoup aussi.
On consomme beaucoup. Ouais. Et c'est ça le problème, ça veut dire... La semaine québécoise de réduction, c'est un petit peu ça. Ça veut dire repenser nos façons de faire un petit peu. Puis juste se conscientiser. Déjà, la job est faite.
On a Linda avec nous. Bonjour, Linda. On vous écoute.
Bonjour. Ça va bien?
Oui.
Moi, c'est l'obsolescence contrôlée qu'on vit.
Ah ben oui.
Moi, j'ai récupéré, là. Je vis encore avec le mélangeur Kenwood de ma grand-mère.
Ouais.
J'ai encore le moulin à café de ma belle-mère quand elle faisait sa crème Budwig. Puis dernièrement, quand le couvert a brisé, j'ai appelé Brown. Je voulais juste acheter le morceau. Puis il disait, ben là, c'est Canadian Tire qui a repris notre ligne. On ne fait plus les morceaux après 7 ans, etc. Mais Mais j'ai mis l'annonce sur Kijiji, puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit, ben viens chercher le couvert. Moi,
Ça, c'est chouette, ça aussi. Mmh. Oui, oui, oui. Ça,
ben
c'est
oui,
bien.
Ouais. J'ai cherché le morceau, j'ai écrit, j'ai mis la photo, j'ai dit mon couvert est brisé. Et puis la personne, elle m'a même donné, elle dit, ben tiens, elle dit, j'ai deux couverts, puis elle m'a redonné l'autre moulin.
C'est bon. Ben, c'est ça, c'est aussi, il y a d'autres façons de consommer des biens. C'est-à-dire, on peut s'échanger des trucs, on peut faire du troc, on peut emprunter des outils. Plutôt que s'acheter sa perceuse, tu l'empruntes à quelqu'un, à ton voisin, des fois qu'il y en a, puis il demande que ça.
Sur Saint-Laurent, d'ailleurs, il y a la remise.
Oui,
absolument. Puis on peut aller emprunter des outils, là.
Merci beaucoup, Linda. Merci bien. Il va falloir qu'on continue là-dessus. On va en reparler parce qu'il y a plein de petites... Et la prochaine fois, Florence, Léa, Siri, on parlera de toutes ces entreprises écolo qui grandissent au Québec, qui fleurissent. Il y en a qui sont dans les produits naturels pour nettoyer, pour éviter d'avoir des produits extrêmement nocifs, même pour notre santé. Moi, je sais que moi, à la maison, là, j'en viens de plus en plus au vinaigre blanc parce qu'on n'est plus capable de respirer ces produits-là, nous rendent malades. Il y a des savons, il y a toutes sortes de choses. Vous connaissez bien ces entreprises, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci, Karel Ménard,
pour cette
initiative. C'est la Semaine québécoise de réduction des déchets. Ça commence le 20 octobre et on est tous d'accord. On relève le défi cette année encore. Merci beaucoup d'avoir été là tous les deux. Après la pause, on va apprendre à respirer par le nez. Restez là tout le monde.